Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Allah déclare dans le Saint-Coran « Ya ayyuhalladhina amanush tanibu kathira minadhanni inna ba'da dhanni ithmun » C'est-à-dire, ô vous qui croyez, évitez de vous adonner à trop de soupçons, car dans certains cas, le soupçon est réellement un péché. Le Messie premier Islam a déclaré à ce sujet, « La discorde résulte des soupçons odieux et des doutes de l'homme. Si l'homme a confiance en autrui, il aura l'occasion d'offrir quelque chose. » Une fois l'erreur commise à la première étape, il est difficile d'atteindre sa destination. Le soupçon est un très grand mal, dit le Messie premier d'Islam. Le soupçon prive l'homme d'une quantité de bonnes œuvres, et ses soupçons s'accroissent jusqu'au jour où il entretient des soupçons à l'égard de Dieu. Ensuite, le Messie premier d'Islam a déclaré Nous ne pouvons lire le cœur d'autrui, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas connaître les sentiments de l'autre. Tenter d'imaginer les sentiments d'autrui est un péché, dit le Messie premier d'Islam. Quand on considère qu'autrui est méchant, eh bien, on devient pire que cette personne. Attribuer hâtivement des intentions blâmables à autrui est condamnable. Croire que l'on peut lire les intentions de l'autre est une démarche risquée, c'est-à-dire croire que l'on peut connaître les sentiments de l'autre est une démarche très risquée. Pourquoi est-ce que c'est très risqué? Car nombre de peuples en ont payé les conséquences et en ont été détruits. Ces peuples ont eu des soupçons à l'égard de leurs prophètes et de leurs proches. Et ensuite, ils ont eu des doutes et des soupçons à l'égard de Dieu. Hazrat Muslim Maud, radhiyallahu anhu, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a évoqué certaines personnes de cette catégorie à la lumière des récits du Messie premier d'Islam. Tout comme l'a déclaré le Messie premier d'Islam, eh bien, d'aucuns ont des doutes à l'égard des prophètes et des membres de leur famille. D'ailleurs, d'entre tous, ce fut Hazrat Muslim Aoud, radiallahu anhu, la plus grande cible de ces attaques au cours de son califat. Le deuxième calife raconte « Allah m'a élu calife et Allah m'a toujours accordé son soutien. Et hormis un aveugle né, personne ne pourra nier qu'Allah m'a toujours envoyé des anges du ciel pour me porter secours. Eh bien, condamnez-moi, dit le deuxième calife. S'adressant à ses détracteurs, il dit, condamnez-moi et jugez le résultat de vos attaques. Quelqu'un avait émis pareille critique à l'encontre du Messie premier al-Islam. Et le Messie premier al-Islam a interdit à cette personne de contribuer un seul centime dans les fonds de la Jamaat. Le Messie premier al-Islam lui a dit, tu n'auras même pas le droit d'envoyer un seul sou pour aider la communauté et tu vas voir quelle perte en subira la Jamaat de Dieu. Le deuxième calife dit, à ceux qui émettent pareille critique à mon encontre, eh bien, je leur interdis d'envoyer un seul centime pour la Jamaat. Ces accusateurs affirmaient que le calife dépensait à mauvais escient les biens de la Jamaat. Il dit, je n'ai point l'habitude de tenir des propos durs, mais s'il vous reste une once de bienséance, eh bien, n'offrez même pas un clou à la Jamaat. Et vous verrez par la suite si la Jamaat progresse ou pas. De l'invisible, Allah viendra à mon secours. De l'invisible, il inspirera des personnes imbues de sincérité pour qui sacrifier leur bien pour la communauté est source de fierté. Ne savez-vous pas ce qu'avait dit le Messie premier al-Islam à propos de l'enterrement de ses 5 enfants dans la Bahishti Makbara? Ne savez-vous pas que le Messie premier al-Islam avait dit que ses 5 enfants et son épouse seront exemptés par Dieu et pourront être enterrés à la Bahishti Makbara sans faire la wasiya? Ceux qui émettront des critiques à ce sujet sont des hypocrites. Si nous étions de ceux qui détournent les biens d'autrui, le deuxième calife dit, si nous étions de ceux qui détournent les biens d'autrui, pourquoi Dieu nous aurait-il distingués des autres et pourquoi nous aurait-il donné la permission d'être enterrés à la Bahishti Makbara sans faire la wasiya? Celui qui s'attaque à nous s'attaque en fait au Messie premier al-Islam. Et quant à celui qui s'attaque au Messie premier al-Islam, il s'attaque en fait à Dieu. Je me souviens qu'un jour, le Messie premier al-Islam visita son verger et il déclara qu'un jour, on lui montra en rêve des tombes fabriquées d'argent et un ange m'a dit que ce sont tes sépultures et celles des membres de ta famille. Et c'est pour cette raison qu'on a réservé cette partie du cimetière aux membres de la famille du Messie premier al-Islam et pour le Messie premier al-Islam. Le deuxième calife dit, certes, ce rêve n'a pas été consigné en écrit, mais je me souviens des dires du Messie premier al-Islam à ce propos. Ainsi, Dieu nous a façonné des tombes en argent pour dire à nos accusateurs, vous les accusez de détourner les biens des autres, alors que nous ferons d'eux des sources de faveur pour les autres, même après leur décès. Ainsi, dit le deuxième calife, Allah transformera la terre dans laquelle nous sommes ensevelis en argent et il transformera votre argent en poussière. Hazrat Muslim Maud dit, les hypocrites s'adonnent à des critiques sournoises. C'est pour cette raison que j'ai tout dévoilé au grand jour. Sachez que je suis fort gêné de dévoiler la somme que j'ai contribuée pour la cause de Dieu. Durant son califat, le deuxième calife a donc subi plus que toute autre personne les attaques de ses détracteurs et de ses hypocrites. Quoiqu'ils émettent ces critiques de temps à autre, aujourd'hui encore, mais à l'époque du deuxième calife, ces attaques étaient des plus virulentes. Ainsi, le deuxième calife dit, « Étant donné qu'on a soulevé une objection, eh bien, j'étais obligé d'y répondre. Toute la somme que toute ma famille a contribuée est 5 fois plus importante que la somme qu'on m'a accusé d'avoir détournée. La somme que mes épouses et mes enfants ont contribuée est plus importante que cette somme qu'on m'a accusé d'avoir détournée. Aucune personne intelligente n'acceptera que nous avons dépensé 5 fois plus afin que nous puissions détourner 1/5 de la somme que nous avons contribuée. Ceux qui émettent pareille critique doivent craindre Dieu et se réformer avant qu'ils ne perdent leur foi, avant qu'ils ne deviennent des athées, avant qu'ils ne deviennent des apostats. Quoi qu'on trouve des gens de cet acabit à toute époque, le deuxième calife a dû faire face à des attaques très virulentes. Et l'on avait aussi porté pareille accusation à l'encontre de la personne du Messie promis, alayhi salam. Le deuxième calife déclare « Ceux qui nous ont quittés avaient l'habitude d'entretenir des soupçons à l'égard de leurs frères. En fin de compte, ils ont accusé le Messie promis, alayhi salam, d'avoir détourné les fonds de la Jamaat pour ses dépenses personnelles. Vers la fin de sa vie, le Messie promis alayhi salam a eu vent de ces accusations et le Messie promis alayhi salam a dit au deuxième calife, il lui a dit, ces gens croient que j'utilise à des fins personnelles les sommes que l'on contribue pour faire tourner la cuisine communale de la communauté. Mais ces accusateurs ignorent que je contribue de ces sommes qu'on m'offre pour mes dépenses personnelles pour faire tourner la cuisine. Le deuxième calife dit, j'apportais au Messie promis alayhi salam les mandats postaux qu'on lui envoyait. Les contributions pour la cuisine étaient si modiques qu'elle ne suffisait pas pour combler les dépenses de cette cuisine. Le Messie promis alayhi salam me disait que si je confiais l'administration de la cuisine à mes détracteurs ou aux responsables de l'Anjuman, eh bien, ils ne pourront pas combler les dépenses de la cuisine communale. Et il en fut ainsi. Et jusqu'à présent, ces gens payent les conséquences de leurs soupçons, car les fonds de la cuisine est toujours dans le rouge et la cuisine est toujours endettée. Pour une longue période, ceux qui se croyaient être de grands gestionnaires ont payé le prix de leurs soupçons. Et l'Anjuman était aussi endetté. Or, étant donné que le Messie promis alayhi salam avait aussi prié en faveur de sa Jamaat, eh bien, sachez que l'aisance financière que connaît la Jamaat aujourd'hui est le résultat des prières du Messie promis alayhi salam et des promesses divines. Tout cela n'est pas le fruit des efforts de quiconque. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la cuisine du Messie promis alayhi salam tourne dans le monde entier. Ensuite, le deuxième calife nous relate un récit qui a trait à la spiritualité et à la vie des prophètes et à la situation de leur communauté après leur décès et avant leur décès. Dieu envoie des prophètes lorsque survient la décadence spirituelle. Il envoie ses prophètes afin de ramener les gens sur le droit chemin. Lorsqu'il y a cette décadence spirituelle, eh bien, Dieu envoie ses prophètes pour qu'ils ramènent les gens sur le droit chemin et pour les pousser vers les sommités de la spiritualité. Certes, quand le nombre des disciples augmente, eh bien, ses disciples progressent tant dans le sphère spirituelle que dans le sphère temporelle. Or, le progrès matériel prend plus d'ampleur après le départ du prophète. C'est ce que nous voyons par la grâce de Dieu dans la vie des prophètes et après le décès du Messie premier Islam au sein de la Jamaat. Cependant, l'on ne pourra maintenir après le prophète le même niveau de progrès spirituel qui existait au cours de la vie du prophète. L'avancée spirituelle à l'époque du prophète est plus importante que le progrès matériel. Certes, il y a des progrès matériels par la suite aux promesses divines, mais il y a aussi manque de spiritualité après le décès du prophète. C'est ce que nous explique Hazrat Musleh Maud, radiallahu anhu, à la lumière d'un récit du Messie promis, alayhi salam. Le deuxième calife, radiallahu anhu, déclare « Immédiatement après le décès du prophète débute une nuit spirituelle. » Or, son décès annonce aussi le succès matériel. Et l'on commence à en voir les indices immédiatement après son départ. Il en fut ainsi à l'époque du saint prophète Mohammed lui. Il en fut ainsi à l'époque de Jésus le Messie, à l'époque de Moïse, et il en fut ainsi à l'époque du Messie promis alayhi salam. Étaient présentes pour la dernière jalsa du Messie promis alayhi salam. Et ce qu'il avait dit à cette occasion mérite notre attention. Hazrat Musleh Maud dit que le Messie promis alayhi salam était parti pour sa marche, au cours de laquelle il passa tout près d'un banyan où se trouvait une foule. En voyant cette foule, le Messie promis alayhi salam a déclaré « On dirait que ma mission a été accomplie. » Car je commence à voir les signes du succès et de la victoire. Et il n'a cessé d'évoquer le progrès de l'Ahmadiyya. Et il a déclaré, Dieu a accordé à l'Ahmadiyya de grands succès. 700 personnes sont présentes pour notre Jalsa. Il y a tant nombre de personnes qu'on dirait que ma mission est terminée, disait le Messie promis alayhi salam. C'est un si grand succès qu'on dirait que la tâche pour laquelle Dieu m'a envoyé a été accomplie et que personne ne pourra anéantir l'Ahmadiyya aujourd'hui. Voilà ce qu'a dit le Messie premier salam. Hazrat Musleh Maud dit Voilà la confiance et la certitude que le Messie premier salam avait en Dieu. En voyant 700 personnes pour la Jalsa, il disait que personne ne pourra anéantir l'Ahmadiyya. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'Ahmadiyya a été établie dans les quatre coins du monde. Hazrat Musleh Maud dit « Quand les dépenses de la cuisine ont monté en flèche et que le nombre d'invités a augmenté, eh bien le Messie promis alayhi salam était très inquiet à propos des dépenses. Or, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, un seul Ahmadi à lui seul pourra couvrir les dépenses de la langar. » C'était là ce que disait le Musleh Maud à son époque, et aujourd'hui, eh bien, cela a pris plus d'ampleur. Le deuxième calife dit, quand le Messie promis alayhi salam fit des prophéties à propos d'un séisme, eh bien, nombre d'Ahmadis vinrent trouver refuge à Qadian. Le Messie promis alayhi salam et ses disciples logèrent dans des tentes dans le verger du Messie promis alayhi salam. Étant donné que le nombre d'invités avait augmenté à l'époque, un jour, le Messie promis alayhi salam dit à ma mère qu'il n'avait plus de fonds. Les dépenses avaient monté en flèche et le Messie promis alayhi salam lui a dit « Je pense que je devrais emprunter de l'argent de quelqu'un. » Après quelques instants, il est parti pour la prière de Zohor. Et lorsqu'il est retourné, il était souriant. Il entra dans sa chambre et il en sortit après quelques instants et il dit à ma mère « En dépit d'avoir vu d'innombrables signes divines, l'homme entretient des fois des doutes à propos de Dieu. Je croyais qu'il n'avait pas d'argent pour faire tourner la cuisine et que je devrais emprunter de l'argent de quelqu'un. Quand je suis parti pour la prière, j'ai rencontré quelqu'un qui portait des vêtements sales. Il me mit dans la main un petit paquet. En soupesant le paquet, Je me suis dit qu'il était lourd parce qu'il contenait des pièces et que la somme sera modique. Mais quand je l'ai ouvert à la maison, il en sortit plusieurs centaines de roupies. Cette somme qu'avait reçue le Messie promet l'Islam est tout à fait modique comparée aux contributions d'aujourd'hui, dit le deuxième calife. Si aujourd'hui on dit à quelqu'un qu'on lui accordera l'occasion de vivre un jour de l'époque du Messie promet l'Islam, à condition qu'il couvre les dépenses d'une journée de la cuisine communale, il répondra « Pourquoi parler d'un jour? Je suis prêt à couvrir les dépenses d'une année tout entière pour connaître un seul jour de l'époque du Messie premier d'Islam. Mais aujourd'hui, qui pourra jouir de ce qu'a vécu ceux qui ont consenti à des sacrifices à l'époque du Messie premier d'Islam? Certes, les contributions ont augmenté, mais l'époque du Messie premier d'Islam avait une toute autre importance. » Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu déclare que j'avais écrit une petite note sur ma copie du Saint-Coran qui décrit à merveille les sentiments de ceux qui ont vécu à l'époque du prophète. À côté du mot Salamun mentionné dans la sourate Al-Qadr où il est dit « Tout est paix jusqu'à la naissance de l'aube », à côté de ce mot Salamun, j'ai écrit « À l'époque du Messie promis ». Nous étions peu nombreux. À l'époque du Messie premier, l'Islam, nous étions peu en nombre, mais il y avait la paix. Certes, Dieu nous a accordé de grands succès par la suite, mais ces progrès ne peuvent égaler l'époque du Messie premier, l'Islam. Certes, aujourd'hui, notre message a atteint un nombre plus important de personnes. Il y a de grands hommes politiques, des États qui reçoivent notre message. Comparé à l'époque du Messie premier l'Islam, la situation financière de la Jamaat aujourd'hui est bien meilleure. La somme que contribue un Ahmadi aujourd'hui dépasse de loin toute la contribution collectée en un an, voire deux ans à l'époque du Messie premier alayhi salam. Or, personne ne peut affirmer que l'époque contemporaine est meilleure que l'époque du Messie premier alayhi salam. Cependant, nous pouvons toujours profiter des prières du Messie promis alayhi salam. Même si nous n'avons pas vécu à l'époque du Messie premier alayhi salam, nous allons pouvoir profiter de ces prières si nous engendrons en nous cette ardeur et ce zèle qui nous poussera à parachever sa mission avec la sincérité et la fidélité qu'il voulait insuffler en nous. Pour ce faire, nous allons devoir progresser dans cette spiritualité qu'il a engendrée en ses compagnons. Ici-bas, je vous présente d'autres récits de Hazrat Muslim Maud à propos des différents aspects de la vie du Messie promis alayhi salam et qui concernent son époque. Hazrat Muslim Maud a évoqué l'amour des compagnons du Messie promis alayhi salam à son égard. Il dit « Nous avons vécu à l'époque du Messie promis alayhi salam, et j'ai vu aussi l'amour que ses compagnons avaient pour lui. Ceux qui sont venus après ou ceux qui étaient très jeunes à l'époque du Messie promis alayhi salam ne peuvent imaginer l'amour que les compagnons éprouvaient pour le Messie promis alayhi salam. Dieu m'a conféré un tel cœur que j'étais sensible à ces choses depuis ma tendre enfance. J'ai pu juger l'amour qu'avaient ces personnes pour le Messie promis alayhi salam. Pendant des années et des années, j'ai vu qu'après le départ du Messie promis alayhi salam, ils ne ressentaient aucun plaisir dans leur vie. Le monde n'avait pour eux aucun attrait. Ceux qui connaissent le premier calife savent à quel point il était résolu. Il ne sait jamais transparaître sa tristesse ou ses soucis. En nombre d'occasions, quand j'étais seul avec lui, il me disait « Mian, depuis l'amour du Messie premier, je sens un vide en moi. Le monde est vide pour moi. Je vaque à mes occupations parmi les hommes, mais on dirait pour moi qu'il n'y a rien en ce monde. » En sus du premier calife, j'ai vu d'autres compagnons qui avaient vécu à l'époque du Messie premier, leur amour et leur affection à son égard étaient telles qu'ils ne trouvaient plaisir en rien après le décès du Messie premier. Ils désiraient mourir pour aller à la rencontre du Messie promis. Ensuite, Hazrat Muslim Maoud a prodigué des conseils aux employés de la Jamaat. Cela concerne en particulier ceux qui habitent ces pays où le coût de la vie est très cher et où il y a de la pauvreté. Il leur conseille d'implorer l'aide de Dieu au lieu de demander le soutien de l'Anjuman, au lieu de demander le soutien du comité de la Jamaat. Et il a cité un exemple de la vie du Messie premier al-Salam. Il disait que le Messie premier al-Salam était très sensible au froid. C'est pour cette raison qu'il consommait du musc. Les médecins traditionnels prescrivent le musc pour combattre le froid, et le Messie premier al-Salam en gardait dans un flacon qu'il avait dans la poche. Et il en utilisait quand il en avait besoin. Et il disait que ce petit flacon qu'il pouvait tenir dans la poche contenait du musc qui lui suffisait pour un an, voire deux ans. Le Messie premier al-Islam disait que quand je me disais qu'il en restait peu et que je regardais le flacon, eh bien le musc s'épuisait. Tant que je ne regardais pas le flacon et que j'en consommais, Dieu bénissait ce qu'il en restait. Et quand je le regardais, eh bien le musc s'épuisait. Ainsi dit Hazrat Moussaïm Maoud, Dieu pourvoit à ses serviteurs de l'invisible, et les méthodes qu'il utilise sont fabuleuses. Demandez à celui dont le trésor est inépuisable. Pourquoi en demander à la communauté qui n'a pas assez d'argent pour vous donner des augmentations? Adorez Allah, il pourvoira à vos besoins de l'invisible. La Sadar Anjuman Ahmadiyya n'a pas assez d'argent pour offrir des augmentations. Ses revenus dépendent des contributions des membres et pas plus. Dans ces pays où la vie est chère, d'aucuns disent qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et d'aucuns m'écrivent à ce sujet. Je sais que la vie est très chère, par exemple, au Pakistan et en Inde, et que les salaires des employés de la Jamaat leur suffisent à peine. Or, la communauté fait de son mieux pour fournir toutes les facilités qui sont à sa disposition. Ces gens-là doivent regarder ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté et qui n'ont pas les moyens de se faire traiter ou de traiter leurs enfants lorsqu'ils sont malades. Ainsi, on doit remercier Dieu, on doit placer sa confiance en Dieu. Et on doit demander à Dieu de combler ses besoins au lieu de se tourner vers les autres. Le Messie premier l'Islam a fait des centaines de prophéties qui se sont réalisées par la suite, des prophéties qui prouvent la véridicité du Messie promis à l'Islam. À titre d'exemple, il avait dit à propos de ma personne que grandeur, éminence et richesse seront siens. C'était une prophétie concernant Hazrat Muslim Maud. Quelle était l'importance des biens que possédait le Messie premier l'Islam? Dans un défi lancé à ses adversaires, il leur avait offert ces biens qui valaient 10 000 roupies. Telle était la valeur de son patrimoine à l'époque. Or, il vaut plusieurs centaines de milliers de roupies aujourd'hui. D'où vient toute cette richesse? Cela vient de la part d'Allah. Après le décès du Messie premier l'Islam, notre grand-père maternel, Hazrat Mir Nasir Nawab Saheb, m'apporta les papiers des propriétés du Messie premier l'Islam. Il était responsable de ces terres à l'époque du Messie premier l'Islam et il me retourna ces papiers après le décès du Messie premier l'Islam. En recevant ces papiers, j'étais dans une telle détresse que je ne savais quoi faire. Par hasard, Cheikh Nour Ahmad Saheb vint me rencontrer et il m'a dit « J'ai su que vous avez besoin d'un employé. Employez-moi. » J'avais besoin de quelqu'un pour gérer ces terres et je lui ai dit « Je n'ai pas d'argent pour vous payer un salaire et les rentes de ces terres ne suffiront pas non plus. » Il m'a dit « Payez-moi le minimum que vous serez disposé à me donner. » Et il m'a suggéré un salaire de 10 roupies par mois. Ainsi, je l'ai employé en me disant que j'aurais quand même assez de rente pour le payer. Mais par la grâce d'Allah, la valeur de ces terres a pris de l'ampleur avec l'accroissement de la ville. Ceux qui critiquent les dépenses trouveront ici la réponse à leurs attaques, à savoir d'où venaient ces fonds ou où sont partis ces fonds. Ainsi, dit le deuxième calife, je désirais que les membres de notre famille couvrent tous les frais de la publication de la première traduction du Saint-Coran, c'est-à-dire Hazrat Moussa Maoud, ses frères et ses sœurs. J'ai demandé à Cheikh Nour Ahmad Saheb s'il avait 2000 roupies à sa disposition. Il me répondit « Permettez-moi de vendre une partie des terres pour la construction des maisons et vous aurez la somme que vous désirez. » Je lui en ai donné la permission et ce terrain fait plus de 25 000 mètres carrés et ce terrain se trouve là où se trouve aujourd'hui le quartier d'Arul Fazal. Après quelque temps, Cheikh Nour Ahmad Saheb vint avec l'argent. Il me présenta 2000 roupies. Il m'a dit « Si vous avez besoin de 10 000 roupies, eh bien faites-moi savoir. » Je lui dis que cela me suffisait pour publier la traduction du Saint-Coran. Et c'est ainsi que l'on a fondé le quartier Darul Fazal. Ce quartier a été fondé grâce à l'argent de cette terre et cet argent a été utilisé pour publier la première traduction du Saint-Coran. Hazrat Muslim Maud, le réformateur promis, a décrit l'amour qu'éprouvait le Messie premier l'Islam pour Qadian et sa vision à ce propos. Le deuxième calife déclare « Ces lieux qui sont liés à Dieu sont bénis pour toujours. » Qadian est un lieu qui a accueilli un envoyé de Dieu. Il a passé toute sa vie ici. Et il aimait ces lieux. Le Messie promis alayhi salam entreprit son dernier voyage à Lahore. Lors de ce dernier voyage, il est tombé malade et il vivait ses derniers jours et il décéda à Lahore. Durant ces jours, il m'appela à Lahore et me dit « Mahmoud, vois comme la lueur du soleil est jaunâtre ici à Lahore. Le deuxième calife dit, pour moi, elle avait le même teint que l'ordinaire. Et je lui fais part de ma remarque. Le Messie premier Islam répondit, non, ici la lueur du soleil est jaunâtre et est brumeux. La lueur du soleil acadienne est claire et très belle. Étant donné qu'il serait enterré acadienne, c'est pour cette raison qu'il énonçait ces paroles qui démontraient son amour pour Cadiane. Ensuite, Hazrat Muslim Maoud nous raconte un autre récit qui concerne l'équitation ou la préférence qu'avait le Messie Premier Islam pour l'équitation comparée au cyclisme. Le deuxième calife dit, « Je me souviens que quelque temps avant de mourir, le Messie Premier Islam m'offrit une jument qu'il avait reçue en cadeau. En voyant les jeunes monter à bicyclette, j'ai eu le désir d'en faire de même. J'en ai fait mention au Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à l'Islam a répondu, « Je n'aime pas la bicyclette. Pour moi, l'équitation est un sport qui sait mieux un homme. » Je lui ai dit, « Offrez-moi un cheval en ce cas. » Et il m'a dit, « J'aime les chevaux qui sont puissants. » Peut-être qu'il voulait que je sois un bon cavalier. Ainsi, il écrivit à Abdulmajid Khan Saeb de Kapurthala et lui demanda d'acheter un bon cheval. Le père d'Abdulmajid Khan Saeb était responsable des étables de l'état de Kapurthala et sa famille s'y connaissait dans tout ce qui a trait aux chevaux. Ainsi, il nous acheta une jument et l'envoya en cadeau. Le décès du Messie premier d'Islam affecta nos finances et je décidai de vendre la jument. Dans la première partie, nous avons vu la préférence du Messie premier d'Islam pour les chevaux et dans la deuxième partie, Hazrat Muslim Maoud est en train de décrire sa situation. Il a dit « J'ai voulu vendre la jument afin que les dépenses ne soient pas un fardeau pour ma mère. » car nous n'avions pas beaucoup de rentes par la suite. Un ami qui a su que j'allais vendre la jument m'approcha et me demanda de ne pas vendre la jument étant donné qu'elle était un cadeau du Messie premier d'Islam. J'avais à l'époque 19 ans et je me souviens très bien de l'endroit où s'est tenue cette conversation. Quand on me demanda de ne pas vendre la jument parce que c'était un cadeau du Messie premier d'Islam, sans réfléchir, je prononçai cette phrase. Certes, c'était là un cadeau du Messie premier d'Islam, mais le plus grand cadeau est Ummul Mu'minin. Je ne désire pas mettre en difficulté ma mère en raison de la jument et j'ai vendu celle-ci. L'on comprend grâce à cela l'esprit martial du Messie premier d'Islam, le fait qu'il préféra l'équitation à toute autre chose, et l'on comprend aussi les sentiments de Hazrat Muslim Maoud à l'égard de Hazrat Ummul Mu'minin. Le deuxième calife a évoqué le décès du Messie premier d'Islam et son état d'esprit par la suite. Il a dit que lorsque le Messie premier d'Islam est décédé, d'aucuns ont dit que son décès était inopiné, mais j'étais au courant de cela. Je savais qu'il y aurait une grande révolution. Dans un rêve, j'ai vu que je venais à la Bahisht Maqbara dans une barque et le flot était si tumultueux que la barque était en danger et était sur le point de chavirer. Tous ceux qui étaient dans la barque étaient fort inquiets. Et c'est là qu'une main est sortie de l'eau dans laquelle il était écrit que ici se trouve la tombe d'un saint. Implorez ce saint et la barque va sortir de ce danger. J'ai dit que c'est du shirk. Même si nous devons perdre notre vie, nous n'allons pas commettre cet acte de polythéisme. Et le danger n'a cessé de prendre de l'ampleur. Et d'aucuns parmi les passagers ont dit « Pourquoi ne pas suivre ce conseil ?» À mon insu, ils ont envoyé une requête de prière en écrit et l'ont placée dans l'eau. Lorsque j'ai su ce qui s'était passé, eh bien, j'ai fait sortir ce bout de papier. Et dès que j'ai accompli cette action, eh bien, il n'y avait plus de danger et la barque est arrivée à bon port. Lorsque le Messie Premier Islam est décédé, eh bien, Dieu avait renforcé mon cœur. Et je me suis dit que nous aurons de grandes responsabilités. Et j'ai fait la promesse suivante. « Oh, mon Seigneur, je me mets à côté de la dépouille de ton Messie. Même s'il n'y a personne pour continuer cette tâche, je vais continuer à le faire. » J'ai été animé d'une force que je ne peux décrire. Et en évoquant en détail ce qui s'était passé, son état d'esprit en prodiguant des conseils à la Jamaat, il nous fait comprendre qu'on ne doit pas avoir peur des difficultés et des peines. Il a dit que lorsque le Messie Premier d'Islam est décédé, eh bien, d'aucuns disaient que le décès du Messie Premier d'Islam était inopportun. Il ne disait pas, na'udhu billah, qu'il était un menteur, mais il disait que le décès du Messie Premier d'Islam était à un moment inopiné parce qu'il n'avait pas encore transmis le message de Dieu et nombre de ses prophéties ne se sont pas encore réalisées. J'avais 19 ans à l'époque. Lorsque j'ai entendu de tels propos, eh bien, je me suis mis au chevet de la dépouille du Messie Premier d'Islam. Je me suis adressé à Dieu, j'ai dit, « Oh mon Seigneur, il était ton bien-aimé. Tant qu'il était en vie, eh bien, il n'a cessé de consentir à des sacrifices pour rétablir ta foi. Étant donné que tu l'as appelé à toi, eh bien, d'aucuns disent que son décès est inopiné. Il se peut que pareil propos soit un obstacle qui fasse égarer nombre de personnes et que la Jamaat soit désunie. « Oh, mon Seigneur, je te promets que même si toute la Jamaat se détourne de ta foi, moi, je vais offrir ma vie pour continuer cette tâche. J'ai compris que c'est moi qui va devoir accomplir cette tâche. » Et à l'âge de 19 ans, ces sentiments m'ont animé. C'était comme un feu qui était allumé en mon fort intérieur et qui m'a poussé à servir la religion tout au long de ma vie. C'était mon seul objectif, à savoir que de continuer la mission pour laquelle était venu le Messie Premier d'Islam. Cette détermination qui avait pris naissance en moi ce jour-là existe jusqu'à présent. Cette promesse que j'ai faite en me tenant au chevet de la dépouille du Messie Premier d'Islam est une promesse qui m'a accompagné tout au long de mon parcours. C'est cette même promesse qui m'a accordé cette détermination face à toute cette tempête d'hostilité à mon encontre. Mais cette hostilité est venue se briser sur le roc sur lequel Dieu m'avait placé. Et tous les efforts des ennemis, tous les plans de l'ennemi, toutes les méchancetés de l'ennemi sont retournés contre eux. Et Dieu, de par sa grâce, n'a cessé de m'accorder du succès dans tous les domaines. Et ces mêmes personnes qui disaient que le décès du Messie Premier d'Islam était précoce, eh bien, ces personnes, en voyant les succès de la mission du Messie Premier d'Islam, se sont mordus les doigts. Ainsi, cette personne qui fait cette promesse et qui dit que c'est lui qui doit accomplir cette tâche, même s'il y a des milliers de difficultés sur la voie, même s'il y a des milliers d'obstacles sur sa voie, eh bien, il va éviter ces obstacles et il va atteindre le succès. Ainsi, il prodigue des conseils aux membres de la Jamaat. Il dit que tout membre de la Jamaat doit faire cette promesse que c'est moi qui dois accomplir cette tâche qui concerne la foi. Cette promesse va faire naître ses sentiments en son fort intérieur et va faciliter cette tâche. Toute difficulté va se transformer en facilité. Certes, ils vont faire face à certaines difficultés, ils vont devoir sacrifier leur confort, mais ils vont ressentir un très grand plaisir. Dans le Saint-Coran, Dieu s'adresse au Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, et lui dit « Que je m'adresse à toi pour cette mission qui concerne la foi. Que tes compagnons participent dans cette tâche ou pas, c'est toi qui dois accomplir cette tâche. C'est pour cette raison que matin et soir, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, se consacrait à cette tâche. Chacune de ses paroles, chacune de ses actions était vouée à cette mission, qui était d'établir la religion de Dieu sur terre. Il s'est dit que cette mission me concerne et personne d'autre. Voilà la sunna que nous devrons suivre. Ensuite, le deuxième calife a évoqué les faveurs de Dieu, le progrès de la Jamaat, ainsi que nos responsabilités. Il dit que Dieu, de par sa grâce, m'a accordé la possibilité de respecter cette promesse que j'ai faite auparavant. Et j'ai dédié ma vie pour transmettre le message du Messie promis l'Islam dans les quatre coins du monde. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir le résultat. Notre mission a été établie dans nombre de pays. Il y avait des milliers de personnes qui étaient empêtrées dans le shirk ou qui étaient victimes du christianisme. Eh bien, ces personnes sont en train d'envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. En dépit de tous ces résultats, nous ne devrons pas oublier cette réalité, à savoir que il y a des millions de personnes dans le monde et on doit transmettre ce message de Dieu l'unique à toute la population du monde et nous devrons aussi les réunir sous la bannière du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Cette tâche incombe à la Jamaat Ahmadiyyad. C'est donc une très grande responsabilité qui nous a été posée sur nos frêles épaules. Sans le soutien miraculeux de Dieu, nous ne pourrons pas accomplir cette tâche, nous n'aurons pas de succès dans ce domaine. Nous sommes les humbles serviteurs de Dieu et sans la grâce de Dieu, nous ne pourrons rien accomplir. Nos actions ne porteront pas leurs fruits. Pour ce faire, nous devons faire de notre mieux. Le deuxième calife avait cité cette promesse qu'il avait faite devant la dépouille du Messie promis d'Islam. Nous devons nous tous faire la même promesse car le progrès de la Jamaat est lié. C'est ainsi que nous serons des membres actifs de la Jamaat. Cette tâche concerne Dieu, c'est une promesse qui concerne Dieu. Hazrat Muslim Maud a déclaré que si on peut faire telle promesse à une personne, tout comme il avait fait cette promesse devant la dépouille du Messie promis l'Islam, il a dit pourquoi ne pas faire telle promesse à Dieu, à savoir que, oh Allah, si le monde entier t'abandonne, eh bien nous n'allons jamais t'abandonner. Voilà la promesse que nous devons tous faire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'athéisme a le vent en poupe dans le monde entier et nous devrons faire cette promesse. Nous devons renouveler cette promesse et nous devons faire de notre mieux pour la respecter et nous devons faire en sorte que nos actions soient en accord aux préceptes de Dieu. Chacun d'entre nous doit faire cette promesse que nous allons nous éloigner du shirk et que nous allons parachever la mission du Messie promis l'Islam et nous allons nous évertuer en ce sens. Et que nous allons respecter cette promesse que de faire flotter dans le monde entier le drapeau du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous.